Chapitre 15. Au lendemain du mariage d'Ottavio, les hôtes de la Villa Orcella s'éloignèrent, sauf Donna Thérèse, qui profitait de son séjour à Rienti pour régler une affaire pendante depuis des années entre ses cousins Travena et elle. Les Orcella n'avaient pu faire autrement que de lui offrir de demeurer sous leur toit pendant ce temps, et elle avait accepté avec empressement. Ginevra dissimulait son déplaisir. Étant donné l'inquiétude que lui causait la santé de sa sœur, elle se fût aisément passée de la présence d'une étrangère, surtout antipathique comme l'était celle-ci. Il ne lui échappait pas que Thérèse devenait fort coquette à l'égard de Silvio. Celui-ci restait courtoisement indifférent. Mais Ginevra, dans l'état d'esprit où elle se trouvait, ressentait de ses manœuvres un sourd agacement qui se manifestait par une froideur de plus en plus accentuée à l'égard de la jeune veuve. Silvio le remarquait et lui dit un jour, tandis qu'il se trouvait seul avec son père et elle, « Vous voudriez bien voir Donna Thérèse à partie, n'est-ce pas, ma chère amie ?» Elle rougit un peu en répondant, « Il est vrai qu'elle ne m'est pas très sympathique. » Don Paolo déclara, « Vous avez raison, c'est une coquette chez qui le cœur est à peu près atrophié, je le crains. Moi aussi, je la verrai s'éloigner avec plaisir. Mais nous ne pouvions faire autrement que de lui continuer notre hospitalité. » Silvio, jetant dans le cendrier le bout du cigare qu'il venait de fumer, se leva et s'approcha de sa femme. Sa main se posa doucement sur l'épaule de Ginevra. « Je regrette que vous ayez cet ennui, Ginevra. » Mais vous en serez délivrée bientôt, je l'espère, car je sais par la comtesse Travena que l'affaire va se régler ces jours-ci. Et je vous avoue que je m'en trouverai très satisfait aussi, car Donna Thérèse est fort loin d'avoir mes sympathies. » Elle comprit qu'il voulait la rassurer, discrètement, au cas où elle se serait inquiétée des coquetteries de la veuve à son égard. Aussitôt, elle répliqua « Je n'en ai jamais douté. Croyez-le, mon ami. » Son regard se levait sur Silvio. Il était ému, sérieux, tout pénétré de cette tendresse contenue qui l'éclairait toujours depuis quelque temps. Et comme toujours aussi, le marquis Orcella détourna le sien. Mais Ginevra ne s'inquiétait plus de cette indifférence qu'elle savait n'être pas réelle. Sur son front, elle conservait la douce chaleur de ce baiser, tout autre que ceux qu'il lui avait donné jusqu'ici, du bout des lèvres, avec crainte, eût-on dit. Il n'avait pas renouvelé ce geste, il s'était tenu sur ses gardes pour que ses yeux ne puissent trahir de nouveau ses sentiments secrets comme il l'avait fait ce jour-là. Mais Ginevra n'ignorait plus maintenant qu'elle était aimée et cette assurance la rendait forte pour la lutte contre le souvenir ou ce qui restait du souvenir de l'autre. Une quinzaine de jours après le mariage, Silvio reçut une dépêche de Pérouse lui annonçant que son oncle venait d'être frappé de congestion. Il partit aussitôt et, peu après, parvint à la Villa Orcella un second télégramme annonçant la mort de Don Vittorio. L'émotion fut très légère pour Ginevra, qui ne le connaissait guère. D'ailleurs, elle était en ce moment tout occupée de Tchèque, dont l'état s'aggravait jour par jour. « Son pauvre petit corps arrive ces jours-ci à l'état de squelette », écrivait-elle à son mari. « Le docteur Maury ne prononce plus de mots d'espoir, comme s'il voulait nous préparer. Ma pauvre petite sœur, elle est si douce, si patiente, mais elle voudrait vous voir venir. Hier, elle m'a dit, si je devenais tout à coup plus malade, il faudrait télégraphier à Silvio afin qu'il soit là quand... » Elle n'a pas achevé, mais j'ai trop bien compris, hélas, ce qu'elle voulait dire. Oui, tâchez de revenir vite, mon ami, pour notre petite Tchèque, pour nous tous, pour moi, qui ai tant besoin de votre affection et qui vous aime si profondément. » Elle écrivait cela, cet aveu de sa tendresse, pour la première fois. Silvio, d'un geste ardent, porta le feuillet à ses lèvres et baisa la signature, tracée par une main un peu tremblante. « Ma Ginevra, ma pauvre Ginevra !» Il frissonnait dans la pénombre froide du grand salon où, la veille, était encore exposé le cercueil drapé de noir. Ce matin, il avait conduit au sépulcre familial le corps de Don Vittorio. Un parfum de fleurs mourantes et de cire chaude demeurait encore dans la pièce immense. Silvio ouvrit les volets à demi-clos, puis les quatre fenêtres et s'accouda à la dernière. Le froid sec du dehors le frappa au visage. En bas, sous ses yeux, s'étendaient les parterres négligés, les bosquets, les charmilles, tout le jardin du vieux palais dont la mort de son oncle le faisait maître. Il le conserverait pour le donner en apanage à l'un de ses fils si Dieu lui accordait plusieurs fois le bonheur de la paternité. Dans quelques mois, un petit enfant naîtrait encore à la Villa Orcella. Ginevra le lui avait dit avant son départ, avec une joie tremblante. Pourvu qu'il leur fût donné de le conserver, celui-là. Un soleil d'hiver frôlait les arbustes dépouillés, les ifs taillés, les statues décrépites, aux visages méconnaissables. Don Vittorio, vieux garçon, d'esprit insouciant, avait tout laissé aller à l'abandon. Il disait à son petit-neveu « Après moi, tu restaureras comme tu l'entendras. Je ne veux pas me donner ces ennuis-là. » Il affectait un égoïsme cynique en paroles, mais ses secours anonymes étaient nombreux. En outre, il avait vraiment aimé Silvio, le fils de son unique nièce. Accoudé à la balustrade de marbre, Silvio songeait, en serrant entre ses doigts la lettre de Ginevra. Il essayait de ressaisir le souvenir d'Hélène, de revivre ses jours heureux, comme il le faisait quelques mois auparavant. Et il ne le pouvait plus. Ginevra seule occupait toute sa pensée. L'ombre d'Hélène reculait dans un passé lointain qu'il considérait avec émotion, sans souffrance, presque sans regret. Sa douleur, son désespoir, ses heures, ses jours, ses années où il avait crié à Hélène son amour, où il avait vécu avec son souvenir, il oubliait tout. Ginevra seule existait pour lui, pour son cœur d'homme que la vivante avait, enfin, conquis sur la morte. Il murmura « Hélène, Hélène, pardonne-moi. De toute façon, il faut que je sois infidèle à toi ou à elle. Mais toi, dans le séjour où tu es, tu n'en souffriras pas, ma petite chérie. Tu as autre chose que mon pauvre amour humain. Et je le lui dois à elle. Je le lui dois comme je te le devais quand tu étais vivante. » Une porte s'ouvrait derrière lui. Il ne se détourna pas. Mais une voix respectueuse prononça « Pardon, Excellence, on vient d'apporter un télégramme. » Il tressaillit, sa main s'étendit, saisit la dépêche et la décacheta rapidement. Il lut « Checa très mal, vous demande. Orcella. » Quand Silvio arriva chez lui, la nuit tombait. Dans le vestibule, il interrogea le domestique qui lui enlevait son pardessus. « Comment va Donna Checa ?» Elle est mourante, Excellence. On l'a administrée ce matin. Le docteur craint qu'elle ne passe pas la nuit. Silvio monta hâtivement. En haut de l'escalier, Ginevra l'attendait. Elle murmura « Mon ami, vous arrivez à temps. Ma pauvre chérie !» Ses bras entouraient la jeune femme, l'attiraient contre sa poitrine. Avec une fervente tendresse, il baisa le visage altéré, humide de larmes. Ginevra dit tout bas « Silvio, mon cher Silvio !» Pendant quelques minutes, la joie merveilleuse anéantit en elle tout autre sentiment. Il lui donnait son amour, il était tout à elle, enfin. Puis elle se ressaisit et son cœur fut repris par la souffrance. « Venez vite, mon ami, la pauvre petite vous a beaucoup demandé toute cette journée. » Elle est si faible, le docteur dit qu'elle peut passer d'un instant à l'autre. Ils entrèrent dans la chambre, éclairée par une lampe voilée. Donna Maria, assise au pied du lit, regardait sa fille. Tout ce qu'elle avait de sensibilité s'éveillait devant l'agonie de cet enfant à qui sa nature sèche n'avait pas su donner l'affection tendre dont Checa était avide, qu'elle avait trouvée chez sa sœur, chez son beau-frère lui-même. À la vue du marquis Orcella, elle se pencha vers la jeune mourante et dit à mi-voix « Checa, voici Don Silvio !» Checa souleva ses paupières bleuâtres et ses lèvres pâlies essayèrent de sourire à l'arrivant qui s'inclinait sur son lit. Elle dit faiblement « Je vous ai attendu, Silvio !» Le marquis se courba et mit un baiser sur le front moite auquel collaient les cheveux bruns. « Petite sœur, je vous aime beaucoup !» L'émotion lui serrait la gorge, car en toute vérité, il avait pour cet enfant une affection fraternelle. « Vous êtes très bon. Aussi, je voudrais vous dire quelque chose. Maman, Gina, voulez-vous nous laisser un instant ? une minute ?» La mère et la sœur échangèrent un regard surpris. Quelle confidence la petite mourante avait-elle à faire à Silvio ?« Une minute !» pria encore Tchèque dans sa pauvre voix affaiblie. Elles se retirèrent silencieusement. Alors Tchèque demanda « Penchez-vous bien pour mieux m'entendre, parce que j'ai tant de peine à parler. » « Mais ma chérie, attendez plutôt, demain vous me direz. » « Non, demain je n'y serai peut-être plus. Écoutez, j'ai demandé à Dieu de me faire mourir en le priant de permettre qu'en retour, ma chère Gina soit heureuse. »
Il eut un léger sursaut.
« Tchèque, que dites-vous ? » « Oh, c'est très vrai. J'ai bien compris qu'elle ne l'était pas. Un jour que nous travaillions dans le jardin, nous vous avons aperçu qui passiez dans une allée. Vous portiez des fleurs et vous alliez à la tombe de l'autre. Alors, j'ai vu ma pauvre Gina pâlir et ses mains trembler sur son ouvrage. Voilà comment j'ai su qu'elle souffrait beaucoup. »
Elle parlait lentement, en tenant entre ses doigts brûlants la main de son beau-frère. Ses yeux trop grands dans ce pauvre visage diminué s'attachaient à la physionomie bouleversée de Silvio. Elle acheva avec une douceur suppliante.
« Il faut l'aimer, ma Ginevra. Il faut l'aimer toute seule. »
Il dit d'une voix étouffée.
« Mais je l'aime, ma petite sœur, je l'aime toute seule, rassurez-vous. »
Dans les beaux yeux dont la teinte d'ardoise pâlissait, passa un fugitif éclat de joie. Les lèvres blêmes murmurèrent.
« Quel bonheur ! Maintenant, rappelez maman et Gina. »
Cette nuit-là, avant que le jour fût levé, Tchèque mourut paisiblement sous les yeux de sa mère, de Ginevra et de Silvio. L'enfant aimable et pensive avait accompli dans le silence l'offrande de sa jeune vie, et seul, Silvio connut comme elle avait aimé sa sœur. La plus grande preuve d'amour, dit l'Écriture, est de donner sa vie pour ses amis. Vers la fin de l'été suivant, Donna Teresa Alnuzzi, de passage à Rienti, vint rendre visite aux Orcella. Elle voulait, assurait-elle, admirer le petit Salvatore, qu'on disait le plus ravissant bébé du monde. En réalité, elle était curieuse de s'assurer de visu de ce qu'on lui avait raconté, que Don Silvio, cédant enfin aux sollicitations de ses beaux-parents, avait fait transporter en France les restes de sa première femme, avec la chapelle funéraire qui avait été réédifiée près de la sépulture des Duvivier au Père Lachaise. On disait aussi que le portrait de la blonde Hélène avait disparu, qu'il était soigneusement enfermé dans quelque armoire profonde et que le petit hôtel de Passy avait été vendu après que le marquis Orcella eut remis aux Duvivier tous les souvenirs de leur fille. Enfin, prétendait-on, Don Silvio et Donna Ginevra formaient un ménage très amoureux. Donna Thérèse, accueillie poliment mais sans chaleur et non invitée à demeurer plus longtemps, ne put contenter sa curiosité pendant les quelques heures passées sur la terrasse avec ses hôtes. Elle constata seulement que Ginevra semblait plus gaie que l'année précédente, plus vraiment gaie surtout. Et Silvio avait changé lui aussi. Dans son visage, qui n'avait plus la maigreur d'autrefois, ses yeux paraissaient contenir plus de vie, les yeux paraissaient contenir plus de vie et une joie profonde. Thérèse a eu la sensation qu'elle n'avait pas éprouvée à son précédent séjour de se trouver en présence d'un homme heureux.
« La fidélité perpétuelle au souvenir n'existe décidément pas », conclut-elle un peu plus tard en dînant chez ses cousines Travenne. « Voilà la pauvre Hélène, bien oubliée certainement. »
À quoi la comtesse répliqua « C'est assez juste. Du moment où Don Silvio épousait une autre femme, il lui devait tout son amour. Et Donna Ginevra en est si parfaitement digne que personne n'aurait compris qu'il s'attachât au culte de ce souvenir, un culte excessif, assez désagréable pour la seconde femme, soit dit franchement. » Ce même soir, Ginevra, après avoir été veillée au coucher de l'enfant, rentra dans le salon où Silvio lisait. Elle s'assit près de lui et prit un volume commencé.
mais son regard s'arrêta au passage sur une grande photographie de Tchéka. Les yeux trop pensifs de l'enfant semblaient sourire ce soir. Ginevra songea. « Ma petite chérie, tu es heureuse de ce bonheur que tu as tant désiré pour nous. » Puis son regard glissa vers Silvio et rencontra les yeux noirs tout éclairés par l'amour. Silencieusement, Silvio attira la jeune femme dans ses bras. La tête brune s'appuya sur son épaule avec un confiant abandon. Ils restèrent ainsi longtemps sans parler. Jamais il n'y avait eu d'explication verbale entre eux au sujet de l'ombre qui les avait séparés pendant une année. Ils s'étaient compris dans le silence et ils avaient laissé parler leur amour. Hélène n'était plus pour l'époux de Ginevra que ce qu'elle devait être, la morte qu'il avait sincèrement, passionnément aimée, dont il conservait un souvenir attendri, mais qui ne pleurait plus parce que la vie avait parlé en lui plus haut que cet amour pour un souvenir et qu'il appartenait tout entier à Ginevra. Fin de L'infidèle de Delis.